Bonjour Gilles.
Bonjour Philippe.
Comment vous avez trouvé cet open world? Moi j'ai trouvé qu'il était un peu curieux, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais aussi beaucoup de défis, beaucoup de départs en interne, et puis une ambiance à San Francisco assez particulière, avec des manifestations partout, sur les Marriott et tout ça. Donc vous, votre vision, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en retirez au sens large?
Je confirme tout ça, oui, ça n'a rien à voir avec Open World, mais c'est vrai que Oracle France, par rapport à l'an dernier, où on avait un discours clair, empathique de Gérald Carcenti, là, franchement...
J'avais pas prévu de commencer là-dessus, mais puisque vous me lancez sur ce sujet interne, comment voyez l'évolution d'Oracle, les relations que vous entretenez avec Oracle après le départ de Gérald Carcenti? Au moins, on m'a dit qu'il y avait des discussions qui continuaient avec le CIGREF, que ce qu'il avait initié continuait.
Pas du tout. C'est mon impression, celle de nos clients. Enfin, mon impression est forgée avec des clients, la quinzaine de clients qui étaient avec nous, mais il y avait quand même une grosse différence entre Oracle France, où là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Partenaire, c'est catastrophique. Il y a du Oracle bashing partout, et c'est justifié. À San Francisco, les gens qui utilisent des ERP Oracle ont eu des réponses claires, ont eu des roadmaps. Sur la partie application, c'est vrai que ça avance bien. Enfin, il y avait un autre Oracle à San Francisco, un peu débarrassé de toutes ces histoires françaises, là, qui sont vraiment désagréables pour tout le monde, avec un turnover de folie, avec des réorgues qu'on comprend pas bien. Ça paraissait cadré comme d'habitude, il y avait quand même tout autant de monde. Quand Oracle fait un séminaire en France, il n'y a pas beaucoup de monde, plus beaucoup de monde. Là, Open World, c'était plein de nouveaux. Donc, c'est vrai que c'est assez contrasté par rapport à ce qu'on peut vivre en France.
Donc j'en déduis que vos relations avec Oracle France ne sont pas très très bonnes, elles étaient déjà pas très... Enfin, elles étaient... normal avant, mais là, vous me dites que ça s'est tendu.
Disons que je reviens sur l'épisode Gérald Carcenti, parce qu'on a appris à le découvrir Open World 2017. Il est parti au bout de 6 mois, mais on a commencé à le connaître là en septembre 2017. Et le chemin qu'il traçait pour Oracle France semblait effectivement attractif, intéressant, le apaisement des relations avec les clients, le CIGREF, etc. Visiblement, il n'a pas eu la main pour faire ce qu'il voulait, et aujourd'hui, c'est reparti comme en 40. Donc, c'est pas qu'on ait de mauvaises relations avec Oracle, mais prenons la partie channel. La division partenaire d'Oracle, elle a quasiment complètement disparu. Il n'y a plus rien. Nous, on est un des partenaires, semble-t-il, importants pour Oracle France. Donc, on est encore, entre guillemets, managé. On a un commercial qui s'occupe de nous. Mais il reste 4 commerciaux sur 30, une petite trentaine. Donc, il n'y a plus rien. Moi, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le Channel France, qui est géré par Christophe Bugeaud, il n'y a plus beaucoup de monde. Il y a eu un PSE spécifique qui a touché beaucoup le Channel. Donc, le Channel, oui, je pense que ça, c'est public. Il n'y a pas beaucoup de... on n'a pas beaucoup d'aide et de ressources à notre disposition. En manpower, ça se voit très clairement.
Donc, quel message est-ce que vous enverriez aujourd'hui publiquement à Oracle France?
Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils sont loin d'être idiots. Peut-être qu'ils pensent que, comme leur stratégie est cloud à fond, peut-être qu'ils pensent que le cloud va se vendre tout seul. Peut-être qu'ils s'imaginent que leurs éditeurs qui ont fait les grandes années d'Oracle, parce que tous les éditeurs travaillaient avec des produits Oracle, aujourd'hui ces éditeurs, je ne suis pas un éditeur, mais ils sont laissés à l'abandon. Donc l'écosystème Oracle aura bien fondu dans 5 ans, c'est certain.
Donc vous dites à Oracle, revenez sur cette décision, ne sacrifiez pas le channel, quoi.
Voilà, tout à fait. C'est des gens comme nous qui sommes des revendeurs à valeur ajoutée. C'est aussi les grossistes, Tech Data Arrow en France. Oracle ne fait plus beaucoup d'efforts. Mais il ne fait plus beaucoup d'efforts aussi parce que certainement, ça c'est des choses qu'on ne connaît pas, le chiffre d'affaires France a dû sérieusement baisser. Je parle du chiffre d'affaires technique, enfin des produits techniques, base de données, je ne parle pas des applications, je ne parle pas du hardware.
Alors justement, ça c'était une autre question que j'avais, il y a ce virage cloud très très fort qu'Oracle a initié il y a les 2 ans, on va dire, qui avait été bien souligné l'année dernière et qui là était au cœur de toutes les annonces aujourd'hui. Quel impact est-ce que vous voyez en France sur le hardware et puis sur votre activité à vous? Vous n'êtes pas sur le logiciel et pas sur le cloud.
C'est assez subtil, c'est-à-dire qu'il y avait un chiffre négoce que l'on faisait, donc on distribuait des produits Oracle, et ce chiffre d'affaires-là il a sérieusement baissé. Et les clients achètent, là où ils achetaient 100 de licences Oracle, ils achètent 10 de souscriptions cloud, renouvelables certes, mais c'est 10. Donc il y a une baisse brutale du chiffre d'affaires qui nous impacte pas énormément, curieusement, hein, mais je pense qu'on doit être un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a un impact très fort, et ça, c'est depuis le moment où Oracle a fait un focus vraiment fort sur le cloud. Alors sur la partie hardware, nous, ça se passe plutôt bien. Hein, on a d'ailleurs, la courbe s'est inversée en 2018, on vend plus de hardware que de software.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'Oracle a abandonné ça en direct, ça vous ouvre un boulevard pour vous?
Peut-être. Alors, mais encore une fois, c'est tellement compliqué. Le hardware, ils l'ont coupé en deux. Il y a une partie qui est Exadata, et ça, c'est encore vendu en France par une petite équipe en collaboration avec les gens qui vendent les licences et les souscriptions cloud. Donc, c'est un peu la même équipe. Et à côté de ça, il y a les gens qui vendent ce qui reste de Sun, hein, donc les Spark, les Storage Tech, le stockage, et les OBA. Et ça, c'est géré à Malaga par une toute autre équipe. Ça veut dire que toutes ces machines-là ne sont absolument pas poussées par les gens d'Oracle France. Et ça, c'est un des gros reproches, mais vraiment le gros reproche qu'on peut faire à Oracle, c'est de fonctionner en silo, d'avoir des équipes qui sont quasiment concurrentes entre elles. Là, c'est particulièrement exacerbé pour la partie hardware. Et pourtant, encore une fois, à San Francisco, les clients Exadata sont des clients qui sont contents, parce que c'est des machines qui fonctionnent bien, qui sont bien conçues, qui évoluent bien. Une roadmap qui est claire. Je parle de la partie Exadata classique on-prem, je ne parle pas de l'Exadata Cloud at Customer, ça c'est un autre débat. Les clients ODA, les clients Exadata sont dans leur grande majorité contents.
Bah, puisque vous en parlez, le Cloud at Customer, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les retours? Comment réagit le marché français? Oracle dit que ça fonctionne très bien, notamment auprès des opérateurs d'importance vitale, les OIV. On serait très friands. Vous, comment est-ce que vous voyez cette offre-là?
Il y a peu de clients en France. La proposition de valeur est intéressante, ça c'est sûr. On travaille auprès de quelques clients qui ont ce type de machine, mais ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, c'est pas un Exadata, c'est une nouvelle machine avec un mode de fonctionnement piloté par Oracle. Un client qui a déjà des Exadata, pour aller sur ce type d'infrastructure, c'est une vraie migration et elle est quelquefois pas possible. Je vais prendre un exemple. Quand on a un Exadata qui tourne depuis quelques années, on a assez facilement plusieurs dizaines d'instances de base de données qui tournent sur cette machine. Sur un Exadata Cloud at Customer, c'est pas géré par Oracle. Oracle a des gabarits qui sont très précis. On va pouvoir faire tourner, je sais pas, 3-4 instances de base de données. Il y a toute la mécanique Cloud Oracle qui s'applique sur ces appliances vendues en EPEX et qui font que c'est pas du tout comme un Exadata. Un client sur le papier, c'est intéressant. Oui, Oracle s'occupe de ces machines-là. En pratique, c'est long et compliqué. C'est pas mature. C'est déjà compliqué de faire une migration vers Exadata parce que ça implique pour un DSI de planifier quelque chose qui est assez lourd, c'est le patching et donc les interruptions des arrêts de machine. Et quand on arrête une machine pour une application, ça va. Si on arrête la machine, il y a 80 applications qui tournent, c'est assez compliqué. Mais pour Cloud at Customer, c'est encore plus vrai. Le chemin est compliqué. Donc pour quelqu'un qui a un nouveau projet qui démarre, oui, ça c'est certainement faisable. Oracle, à un moment donné, disait à tous les gens qui veulent renouveler leur Exadata, disait maintenant, vous prenez la même chose, mais en cloud. Mmh. Et ça marche pas du tout comme ça.
D'accord.
Et puis après, moi, il y a un point qui m'interroge, et j'ai pas de réponse, mais quelle est la roadmap technique de cette machine? Vous avez entendu à San Francisco qu'on parle de cloud Gen 2, et pour moi, les Exadata Cloud at Customer sont première génération. On a œuvré là sur cette migration cloud V1 vers cloud V2. C'est pas simple.
Et pourquoi c'est pas simple?
Pour toutes sortes de raisons. C'est pas dans les mêmes data centers. Je pense à un client avec qui on était parti en cloud V1, on a terminé en cloud V2, mais on a dû tout reprendre. C'est pas les mêmes data centers. Quand on fait un PRA, il faut tout reprendre la partie réseau. Il n'y a pas d'outils de migration. Quoi qu'en dise Oracle, nous, on n'a pas réussi à faire fonctionner les outils de migration. Il faut voir que la souche technologique a quand même bien changé. D'ailleurs, ça marche mieux. Hein. Cloud V2 semble-t-il plus performant. Rien à dire sur l'architecture qui a été choisie, mais ce à quoi ils n'ont pas vraiment prêté attention, c'est les clients qui sont déjà en V1, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, ben, comme on fait pour migrer en V2. Moi, je m'interroge sur quel est le rôle d'un partenaire comme nous. Comment est-ce qu'Oracle nous voit, nous ?
Ça, vous n'avez pas de réponse.
Bah ben, non. C'est assez général. Hein. Quand on parle de la base autonome, alors, un, je ne crois pas au miracle. Et deux, comment est-ce que des partenaires qui sommes tous les jours au contact de clients, comment est-ce que on va fonctionner. Moi, je ne me plains pas du tout. Hein. C'est un progrès technique intéressant, enfin très intéressant. Il y a plein de choses là derrière. Mais il y a une conduite du changement qui est vraiment à faire, à la fois pour les partenaires comme nous, chez les clients. Et toute cette partie-là, je ne la vois pas bien.
Bah justement, j'allais vous demander ce que vous pensiez de la base autonome. Je vais vous reposer la même question que vous avez posée l'année dernière sur la maturité des bases de données cloud. Vous m'aviez dit technologiquement c'est super, mais si on réfléchit en termes d'architecture, ça pose problème puisque ce qu'il y a au-dessus de la base de données est très sensible à la version de la base de données. Alors si on met à jour, si on modifie, ça peut casser la totalité des couches IT. Est-ce que le marché a évolué ? Quelle est votre analyse là-dessus aujourd'hui ?
Je confirme ce qu'on disait. Sur la partie base autonome, alors le rêve de pouvoir se débarrasser de l'informatique et des DBA va peut-être se réaliser. Très bien, mais encore une fois, on ne croit pas au miracle, donc c'est pas comme ça qu'une direction générale se passera de ses informaticiens.
Et en termes de maturité, enfin, comment vous le voyez par rapport à quoi ça sert ? Parce que comme vous me disiez, si on met une application au-dessus qui est sensible à la version de la base qui est en dessous, enfin, quels sont les cas d'usage que vous voyez ?
Ben justement, moi, ce que j'ai demandé à mes chers amis d'Oracle, quels sont les use cases ? À ce jour, je n'ai pas vraiment de réponse. Hein. Donc, quels sont les use cases ? Alors, il y a quelques clients plutôt grands comptes qui font des essais en ce moment sur des nouvelles applications, des nouveaux projets. Mais à mon sens, aujourd'hui, il est infaisable de prendre une application existante et de la migrer vers une base autonome cloud. On gère essentiellement on-prem pour nos clients à peu près 2000 bases de données. J'en vois aucune qui puisse faire ce chemin aujourd'hui parce qu'il faut être en version enterprise, parce qu'il faut avoir crypté sa base de données. Il faut être en ce qu'on appelle en PDB, la Private Database. Et vraiment, il y a des considérations techniques préalables qui font que c'est quasi pas jouable. Je fais une petite digression sur le SaaS, même si ce n'est pas tout à fait notre sujet. Là, à San Francisco, on a vu quand même, j'ai discuté avec des gens qui utilisaient ERP Cloud et qui sont contents et ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même... C'est quand même tellement longtemps que c'est en l'air. Là, ça semble quand même bien parti. Mais ERP Cloud, d'un point de vue opérationnel, bah c'est 4 migrations par an, dont les dates sont fixées. Le vendredi X, Oracle met à jour l'environnement de test. Et 15 jours après, il met à jour l'environnement de prod. Et le client n'a rien à dire. Ça fonctionne, mais c'est une gestion qui est très différente. Ça veut dire que le client n'est pas du tout maître du calendrier. Et tous les trimestres, il faut retester, vérifier, valider. Et la montre tourne. On a 15 jours pour faire ça.
Mais dans vos clients à vous, qui ont leur infra, et puis voilà, c'est pour ça qu'ils font appel à vous, ils passent absolument pas à ça. Ça les intéresse pas.
Non. Poquelin Hydraulics, belle grosse ETI française, ils sont sur un ERP Oracle, pas cloud du tout. Et le DSI, ça m'intéresse d'avoir des nouveaux modules qui sont cloud, mais ce sera hybride. Surtout pour un client comme Poquelin qui utilise les modules de gestion industrielle, de manufacturing. Ils sont sur un temps long, ils ne vont pas basculer dans les 3-4 ans qui viennent dans un environnement full SaaS cloud. C'est pas possible. Disons qu'il y a un rythme qu'Oracle essaye d'imprimer à ses clients qu'on ne peut pas suivre. Encore une fois, pour des applications existantes.
Oui, c'est ce que vous me disiez aussi sur les bases de données cloud. Le cycle de vie d'un ERP, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, on verra dans 10 ou 15 ans, quoi, en gros.
Exactement. Et je pense que chez Azure, puisqu'on bosse de plus en plus avec Microsoft, sur Azure, la situation est la même. Quel client a mis son ERP classique, traditionnel, quel qu'il soit, dans Azure ? Très, très peu. C'est anecdotique, mais c'est quand même rigolo. Comme Oracle a licencié, ils n'ont pas été forcés, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et bien, il y en a beaucoup chez Microsoft, quelques-uns chez Amazon. Et c'est les gens qui étaient chez Oracle que je connaissais bien qui m'appellent maintenant pour que je puisse aussi intervenir sur Amazon. Donc, les clients qui ont des idées précises, emmenez-moi sur Azure. Là, j'ai un dossier, mais c'est pas en France, c'est au Luxembourg. Emmenez-moi chez Alibaba. Nous, on les accompagne. C'est de l'infrastructure. C'est plus IBM ou HP, c'est Amazon ou Alibaba. Dans le cas des produits Oracle, c'est sûr qu'il y a des conséquences sur les licences qu'il faut avoir en tête. Hein. Un client qui va chez Amazon ou chez Azure, il faut qu'il sache que Oracle peut du jour au lendemain décider de lui faire payer plus cher ses licences.
Bah, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière en doublant les prix, non?
Tout à fait. Tout à fait. Plus toutes les histoires de virtualisation qui pourrissent la vie de tout le monde, là, enfin de tous les clients Oracle.
C'est-à-dire?
Ben, rien ne bouge avec la méthode de comptage des licences Oracle qui n'a pas bougé depuis toujours, qui ne tient pas compte de l'environnement virtualisé. Donc, c'est tous les jours, tout le temps, que c'est quelque chose qui perturbe les directeurs informatiques. Bien sûr, du coup, ça fait vendre des OLEA, des Exadata, parce que là, on arrive à cantonner l'environnement Oracle de façon très précise, mais c'est vrai que ça fait un peu qu'on va à la garde. Donc voilà, monsieur le client, vous choisissez. Aujourd'hui, on a sincèrement pas assez de recul pour dire les pairs sont meilleurs là ou là, c'est mieux ou moins cher. C'est le gros enjeu de demain, ça, hein, d'arriver à avoir un pilotage multi-cloud de sa consommation, là, enfin d'avoir une vraie gestion, un provisioning, un billing qui soit le plus automatisé possible. Ça n'existe pas aujourd'hui, mais je pense que demain, on en aura vraiment besoin.
Je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire que d'une part, tout ce qui était activité revente de matériel sur site, enfin hardware, on-prem, donc HPE, ouais. Tout ça maintenant devient la revente de services de stockage et d'hébergement dans le cloud, que ce soit Google, Amazon, ouais. Alibaba ou autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait vu, mais vous me le confirmez, ouais. Donc je suis assez content.
Oui, complètement.
Qu'on se soit pas planté là-dessus. Donc vous, ça veut dire que vous changez. Et ce que vous voyez, c'est la transformation de votre métier aussi, la gestion multi-cloud, oui. Et donc vraiment, oui. De voir d'une part les performances et d'autre part de pouvoir passer d'un cloud à un autre et de contrôler les,
oui.
De contrôler les coûts.
On ne nous demande pas encore de le faire, mais je pense que ça viendra et ça impacte tout l'écosystème, y compris les grossistes, les Arrow et autres, TechData, leur business de revente, il est sur la partie Oracle, il est affecté de plein fouet par tous ces changements et eux, ils se mettent à fabriquer des outils pour nous pouvoir nous aider à faire cette gestion multi-cloud. Ce sont de très gros développements qu'il faut faire. Et si je reste dans le monde Oracle, l'année dernière, ils ont annoncé les Universal Credits, ça met tout par terre. Si on avait développé des outils de provisionnement là, de ces meters, d'un-meters, enfin, leurs anciens métriques, qui étaient d'ailleurs Cloud V1, sur Cloud V2, ce n'est que de l'Universal Credit, mais tout a changé comme ça, en claquant les doigts, Oracle a dit au 1er décembre 2017, je crois, voilà, c'est de l'Universal Credit. Donc toute la chaîne est impactée. En tout cas, les cloud providers se rendent pas bien compte, je crois. Enfin, je veux pas généraliser, mais les gens d'Oracle France, il n'y en a pas un qui soit compétent sur le sujet. Comment moi, revendeur, je vais pouvoir gérer, revendeur d'énergie numérique, quelque part, comment je vais pouvoir gérer la facturation variable tous les mois? Vous allez m'envoyer des factures pour les clients, une facture variable, on ne peut pas le gérer à la main, c'est pas possible.
Oui, donc il y a vraiment une modification de votre cœur de métier vers ça.
Complètement, complètement. Disons qu'avant, on s'en occupait pas. Le client achetait ses serveurs IBM, son stockage EMC, etc. Mais aujourd'hui, ça l'intéresse de moins en moins. Il va acheter de l'énergie numérique cloud. Nous, on le gère et par-dessus, on top, on met nos services.
D'accord.
C'est vrai que notre business change. C'est pour ça que si on fera moins de patching de base de données parce qu'elle sera autonome, mais ça me va bien. Hein. Je n'ai pas de souci avec ça. Sauf que on n'explique pas bien à l'écosystème comment faire, comment gérer cette nouvelle façon de... Enfin, comment faire ça.
Je vais terminer avec la question que je voulais vous poser en premier. La question la plus simple, c'était pour laquelle je voulais vous joindre, c'était qu'est-ce que vous retenez d'un point de vue annonce de cette Open World? C'est pour ça que je vous appelle chaque année. Qu'est-ce qui n'a pas été mis en avant dans la presse et qui vous paraît, vous, extrêmement important pour les clients français?
Bonne question. Il y a beaucoup de choses, mais il y a vraiment un décalage peut-être grandissant entre les préoccupations et les startups qui voient dans l'écosystème Oracle plein de belles choses, des bases autonomes, des services cloud variés, et puis les DSI qui ont à faire vivre leur infra. C'est vrai qu'on est ébahis de l'offre de services cloud d'Amazon et d'Oracle. Tous les services offerts, proposés, enfin, nous on est dans la glaive et la vraie vie, hein. C'est vachement intéressant tout ça, c'est très joli, mais qu'est-ce que j'en fais avec mes infras classiques? Le chemin de migration vers ces nouvelles choses est très compliqué. Enfin, j'ai en mémoire là, un projet qu'on a démarré il y a 5 ans là, pour un éditeur français dans le domaine de la protection sociale. Le projet a été gelé pendant 4 ans globalement. Donc on a repris les slides, les copies, les documents d'architecture d'il y a 5 ans. Bah, c'est vrai que la vie a quand même bien changé. Toujours des exadata dans le projet, mais il n'y a plus d'exa logique. On parle de microservices, on parle de DevOps. Ça, je trouve que ça a vraiment beaucoup évolué. La puissance transactionnelle d'un exadata, ça n'a pas trop bougé. On en a toujours besoin. Les machines ont bien évolué. Enfin, dans la courbe habituelle, hein, on fait x2 chaque année, ou presque. Donc c'est toujours valable. En revanche, toute l'architecture logicielle, on parlait de WebLogic, WebCenter, enfin dans le monde Oracle, hein, et ça a un peu disparu. Hein. Je suis pas sûr qu'on soit passé à côté de grandes annonces qui étaient assez discrètes, mais côté application, les clients qui étaient avec nous, aussi bien JD Edwards que eBusiness Suite, étaient quand même contents de l'évolution de cet applicatif qui s'était pas gagné parce que PeopleSoft voulait jeter JD Edwards. Ben finalement, ça continue bien, ça évolue. Alors certes, il y a des modules qui sont maintenant beaucoup en SaaS, mais ça fonctionne bien de façon hybride. Enfin, les gens des applis étaient contents, les gens des exas qui ont des exas étaient contents aussi. La quinzaine de clients sont quand même revenus très contents. Je pense juste à un truc qui est les exas logiques. Et puis, dans le domaine des appliances Oracle, hein, il y a du ménage qui va être fait. Rien n'est annoncé, mais je le vois assez bien. Enfin, il y a beaucoup de clients Exadata. Il y en a moins sur la partie exa logique et Exalytics. Mais ça risque de bouger. À San Francisco, on a pu discuter avec quelques product managers là, qui nous ont laissé entrevoir des choses assez intéressantes. Mais là, il va y avoir des changements.
Et justement, pas d'évolution particulière, parce que l'année dernière, vous m'aviez dit, on n'en parle pas, mais tout ce qui est ODA, Exadata, tout ça, bon, voilà, c'est pas glamour, mais il y a eu des nouveautés, c'était extrêmement important pour vos clients.
Encore une fois, c'était plutôt sur la partie exalogique, exalytics, là, qui a eu des évolutions. Et avec la montée en puissance d'une appliance, là, qui est assez discrète, qui s'appelle PCA, Public Cloud Appliance, qui semble bien intéressante, qui est très, très peu diffusée encore, mais.
D'accord. Rien à voir avec Cloud Customer.
Non, pour l'instant non, mais à terme peut-être. C'est-à-dire que c'est une machine, une appliance type Exadata, donc c'est plutôt du haut de gamme ou du très haut de gamme, qui permet de compartimenter sur la même machine, de mutualiser les choses. Au sens oracle du terme, si moi je veux mettre 2 clients sur un Exadata, c'est pas possible. Donc moi en tant que hoster, je peux pas le faire. Sur un PCA, je peux le faire. C'est pas tout à fait un Exadata quand même, hein. C'est toujours les processeurs Intel, etc. Mais c'est pas l'architecture technique d'un Exadata et la puissance d'un Exadata.
Donc c'est pour vous en fait, c'est pour pouvoir faire un cloud pour vos propres clients en fait.
Oui, tout à fait. Public Cloud Appliance, ou Private Cloud Appliance, pardon. Et il y a un certain nombre de clients que vous imaginez facilement, qui sont des grands infogéreurs, qui ont ce type de machine, semble avoir
C'est un revirement important chez Oracle, parce qu'il me semblait que l'année dernière ou il y a 2 ans, vous me disiez que Oracle ne laissait pas ses partenaires faire leur propre cloud ou faire ce genre de choses.
Tout à fait. Et je maintiens, à l'exception de cette machine qui permet de le faire un tout petit peu. Même sur un PCA, on peut dédier un certain nombre de cellules, pas comment on peut appeler ça, des cellules, des nœuds à un client donné, mais ça reste, le ticket d'entrée reste quand même très important. Je ne peux pas m'appeler OVH et acheter des machines PCA, ça ne va pas du tout. Parce que la granularité, elle existe, mais elle est quand même est pas assez importante. La granularité, c'est, si on compte en VM, c'est 200-300 VM que je dois dédier à un client, c'est pas une.
D'accord, donc il y a un virage, mais qui est timide. Donc il y a quelque chose qui se passe, mais bon.
Oui, tout à fait. Ça évolue un petit peu.